which way is America?
Hola!
D'où viens-tu, étranger?
Je viens d'un pays entre le nord et l'est. Je ne puis rien vous dire d'autre.
Africa!
Il faudra repartir.
Christine, fais juste la con.
Allez, appareillez!
Personne ne doit encore partir.
Bonjour et bienvenue dans Il faudra repartir, le podcast qui vous parle de voyager autrement, voyager par soif de savoir, de culture ou comme aujourd'hui de littérature. Car mon invité d'aujourd'hui est un lecteur chevronné qui a un jour décidé de franchir le pas entre voyage de fiction et voyage réel. Il s'agit de Tom Lévesque, blogueur littéraire parti dans les îles éoliennes en Italie sur les traces de Van Gogh, le personnage principal du roman de Timothée de Fombelle. Bonjour Tom.
Bonjour.
Alors, on reparle dans un instant de Van Gogh et de l'Italie, après une petite page d'actualité voyageuse.
Actualité
voyageuse. Alors Tom, as-tu déjà entendu parler d'électro-tango ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Eh bien, c'est comme ça qu'on appelle la musique qui mélange le tango traditionnel argentin et des sonorités un peu plus modernes entre rock, pop et électro. Et en ce moment, il y a un groupe qui excelle dans ce domaine. Il s'agit d'Otros Aires, groupe hispano-argentin créé par un certain Miguel Di Genova en 2003. Alors, tu te demandes peut-être à quoi ça peut ressembler concrètement. Eh bien, par exemple, ça peut ressembler à ça. Donc voilà, on a les sonorités tango traditionnelles, les cordes, les bandoneons, avec en plus ce petit groove électropop très rythmé et entraînant. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'Otros Aires vient à Paris fin avril pour un concert qu'il ne faut vraiment pas manquer. Je les ai vus à Rennes au Festival du Grand Soufflet et c'était vraiment inoubliable. Alors la première date du 28 avril est déjà complète à Paris. Les organisateurs en ont donc prévu une deuxième, et ils ont bien fait, le dimanche 29 avril. Ça se passe au studio des Rigoles, dans le 20e arrondissement de Paris, et c'est organisé par le Paradis, qui est normalement une milonga, c'est-à-dire un bal tango. Donc il y a des chances pour que la soirée soit aussi un peu dansante, ce qui ne vous empêche pas de venir pour écouter le groupe, si vous n'avez pas encore testé cette danse merveilleuse qu'est le tango. La réservation des places se fait par mail, donc il faut contacter le responsable de la milonga à pedro@leparadis.info. Toutes les informations de toute façon seront sur notre site internet, sur le site de transmission, à la page de l'émission du jour. Alors on enchaîne avec le cœur de l'émission. Je reçois aujourd'hui Tom Lévesque. Donc Tom, tu es blogueur, passionné de littérature jeunesse en particulier. Donc tes voyages de prédilection sont plutôt littéraires alors. Et pourtant, avec quelques amis, tu as sauté le pas et tu es parti sur les traces d'un personnage de fiction que tu affectionnes particulièrement. Il s'agit de Van Gogh, le personnage principal du roman éponyme de Timothée de Fombelle. Alors, on va reparler de Van Gogh dans un instant, mais est-ce que d'abord, tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais dans la vie, sur ton blog, entre autres choses ?
Moi, ça fait, on disait juste avant, 8 ans que je tiens ce blog littéraire qui s'appelle « La Voix du Livre ». Ça fait beaucoup plus longtemps que je lis et puis j'ai eu envie à un moment de me lancer dans l'aventure du blog pour échanger, parler de lecture. Et ce qui m'a en fait, je me suis lancé notamment parce que Gallimard Jeunesse, il y a 8 ans, faisait un appel à chroniqueur où on pouvait devenir chroniqueur pour recevoir en avant-première les livres de Gallimard Jeunesse. Et pour ça, il fallait envoyer une chronique. Et j'avais envoyé ma chronique de Toby Lalness, le premier roman de Timothée de Fombelle. Après le blog, j'ai eu envie de continuer dans le métier du livre pour passer de l'autre côté. Alors, enfin, depuis longtemps, j'ai envie de devenir, à la base, j'ai envie d'écrire. Mais on ne gagne pas facilement sa vie en étant écrivain. Donc, je me suis dit, on va aller de l'autre côté du miroir. Et je fais des études d'édition. Sinon, de salon en salon, on rencontre des gens et c'est comme ça qu'on peut faire la rencontre de gens merveilleux comme ceux avec qui je suis parti dans les îles éoliennes. Je ne sais pas si c'est maintenant que je dois parler du voyage.
On va en reparler dans une minute. Je voulais juste te demander avant, si en dehors de ce projet dont tu vas parler, est-ce que tu es un grand voyageur ?
Je suis un voyageur, comme tu disais, littéraire. Donc, je voyage dans plein de lieux différents par les mots et puis des voyages aussi plus. Je ne sais pas si on m'entend. Des voyages aussi plus intimes. Et sinon, j'aime voyager de manière assez classique, hein, des vacances, des week-ends par-ci par-là. Je n'ai pas été très loin, mais j'ai déjà des coups de cœur, pays et villes.
Comme par exemple, si tu veux citer un exemple.
À part les îles Éoliennes, Dublin.
D'accord.
Je vais partir cet été 2 mois à Dublin. Donc ça sera un autre grand voyage.
Alors, on va situer un peu le roman dont on va parler principalement aujourd'hui. Donc, c'est Van Gogh. Roman de Timothée de Fombelle, paru donc en 2010 aux éditions Gallimard. Alors, Timothée de Fombelle, pour situer un petit peu pour ceux de nos éditeurs qui ne connaîtraient pas trop, avait déjà rencontré un grand succès avec son œuvre précédente, Toby Lunness. C'était la grande histoire d'un tout petit personnage, une sorte de lilliputien vivant dans un arbre qui a pour lui les dimensions d'une ville. Et donc Van Gogh, lui, est un enfant de taille normale, mais il est lui aussi mêlé à une histoire qui le dépasse. Le roman commence en 1934 à Notre-Dame de Paris, où éclate une fusillade. Et c'est Van Gogh qui semble viser, lui qui était sur le point d'être ordonné prêtre. Alors s'ensuit pour le héros une longue fuite qui l'emmènera en Allemagne, puis aborde un ballon dirigeable direction l'Amérique du Sud, qu'il n'atteindra pas car il s'arrêtera avant pour des raisons qui sont détaillées dans le roman. Et alors la question que se pose le lecteur et tous les personnages qui poursuivent ce jeune homme pour des raisons différentes, et que je vais te poser peut-être maintenant, mais qui est donc Van Gogh ?
Question bien trop difficile pour y répondre maintenant. C'est toute la question du roman et c'est ça qui en fait un roman formidable. C'est que, en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est le héros du roman, c'est le personnage central. Et en fait, on le suit lui et on le suit surtout tous les autres personnages qui vont être à sa poursuite. Et donc, en fait, Van Gogh, on le découvre par plein de regards et d'angles différents, et c'est tous ces regards qui en fait tournent autour de lui, qui vont nous faire découvrir peu à peu plusieurs facettes, et en fait on saura qui est Van Gogh que à la fin du tome 2, et c'est ça qui est formidable. Mais après, bon, ce qu'on sait au début, c'est que c'est au tout début, donc il va être ordonné jeune prêtre. On sait pas trop ce qu'il a emmené ici, et puis on va découvrir au fur et à mesure qu'il a des origines où il vient d'Italie, mais que lui-même ne sait pas exactement tout de son passé, et qu'il va partir en fuite parce qu'en fait ses origines le rattrapent.
Donc à propos de ses origines, je te propose de lire pour entrer dans l'œuvre, d'en lire un extrait. Alors donc c'est au chapitre 4, et c'est un retour en arrière sur le passé de Van Gogh et son arrivée dans les îles. Les îles éoliennes, donc voilà, ça lit déjà un petit peu le roman et puis la destination dont on va parler.
Donc c'est le chapitre 4 du tome 1, Premier matin du monde. Salina, îles éoliennes, Sicile, 16 ans plus tôt, octobre 1918. Ils poussèrent la porte et la tempête entra avec eux. Ils étaient quatre. Quatre hommes qui portaient une femme inanimée roulée dans un voile rouge du bateau. Tout le monde se leva. Tonino, le patron de l'auberge, libéra une table devant le four à pain et appela ses filles. On posa le corps sur le bois. « Elle est en vie ?» demanda Tonino. Sa fille aînée déroula le tissu rouge, déchira la robe trempée et posa son oreille sur le cœur de la femme. Les clients de l'auberge, le patron, les pêcheurs qui avaient apporté le corps, toute la salle attendait. Carla écouta longuement. « Alors, Carlotta ?» hurla Tonino, impatient.
« Chut !»
répondit-elle. Elle n'était pas sûre. Le vent sifflait dehors, une branche de bougainvillier frappée contre le volet. Rien n'est plus léger que le battement d'un cœur. Face à la tempête, c'est la lutte du grelot contre la fanfare. Carla finit par se relever et sourire.
Elle vit.
Sa petite sœur apportait déjà des draps pour sécher le corps. Elle prit de gros galets qui chauffaient près du feu, les enveloppa dans un morceau d'étoffe et les glissa comme des bouillottes contre la peau mouillée. Les filles chassèrent à grands gestes les hommes envoûtés par ses épaules nues.
Ciao, signori, ciao!
Elles tendirent un drap pour s'isoler et la déshabiller. Tonino servit à boire à tout le monde. « D'où elle vient ? » demanda-t-il. Il y avait une vingtaine de personnes dans l'auberge de Malfa. « Mauvais temps, bonnes affaires », c'est ce que disait le patron le matin quand le ciel noircissait. Et ce matin-là, en effet, la salle était pleine. On ne comptait pourtant plus beaucoup d'habitants dans l'île. En quelques dizaines d'années, la population avait été divisée par 6. Les gens partaient par bateau entier chercher fortune en Amérique ou en Australie. Ils laissaient derrière eux des villages fantômes.
On l'a trouvée sur le sentier de pierre au-dessus de la plage de Scario.
C'était Pippo Troisi. Il n'était pas pêcheur. Il cultivait des câpres et un carré de vigne, mais on l'embauchait les jours de grand vent pour alourdir les barques. La femme, il l'avait vue le premier et c'était devenu une affaire personnelle, la fierté de sa vie. Il jetait parfois un regard de propriétaire au petit théâtre d'ombre qui se jouait derrière le drap. « Mais d'où elle vient ?» répéta Tonino.
« Personne ne la connaît. »
répondit Pippo. Cette affirmation les maintint longtemps dans un grand silence. Dans une île, on connaît tout le monde. Et s'il arrivait de rencontrer quelques marins étrangers dans les ports, on n'avait jamais ramassé une inconnue très belle sur un chemin de falaise.
« Elle était à Essoré, »
ajouta Pippo.
« Elle a dû rester longtemps sous la pluie. »«
Mais enfin, d'où elle vient ?» radotait l'aubergiste en regardant son verre. Le vent jouait maintenant de la flûte avec la cheminée.
« Elle vient de la mer ?»
répondit une voix derrière le drap. C'était Carla. Elle passa la tête pour dire
« Cette femme, elle est salée comme un tonneau de thé capre, Pippo Stroisi. »
Ils se regardèrent en silence. La mer leur avait tout donné. Elle les faisait vivre, parfois mourir. Elle leur livrait des surprises, un baleineau échoué, des épaves, ou sept caisses de bananes tombées d'un bateau l'été précédent. Mais elle n'avait jamais projeté une femme comme un poisson volant à mi-falaise de la plage du Scario.
Elle ouvre les yeux.
Ils se précipitèrent. Carla et sa sœur les tenaient en respect. Ils n'auraient sûrement pas osé avancer plus. La femme était maintenant recouverte d'une lourde couche de châle et de couverture. Les filles avaient bien fait les choses. Plus décente qu'une nonne, pas un seul recoin de peau ne paraissait. Même ses cheveux étaient enveloppés dans une étoffe. On ne voyait que sa face, la nuque appuyée sur un coussin de laine. Elle était beaucoup moins jeune qu'elle leur avait semblé à tous. Mais le froid paraissait mettre sur son visage un maquillage de bâle. Le teint pâle, les lèvres foncées, du fard aux yeux. En se réchauffant, ses joues se poudraient de rose. Elle garda longtemps les yeux ouverts, puis elle dit un seul mot.
« Van Gogh. » Alors, c'était là la première incursion dans les îles éoliennes, où grandira Van Gogh, et peut-être des premiers éléments de réponse sur ses origines. Alors, pourquoi déjà, c'est toi qui as choisi le passage, pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça te raconte sur le personnage, sur le voyage peut-être et sur les îles?
Déjà ce passage, parce que comme tu le dis, c'est la première incursion dans les îles éoliennes. Donc, en tant que lecteur, c'est là que le voyage commence vraiment. Du coup, c'est aussi lié au voyage parce que c'est le passage qu'on a lu, nous tous les six, quand on était dans les îles, on s'est filmé justement sur la plage du Scario, en train de lire ce passage, donc il a aussi cette résonance pour nous. Et puis au niveau du personnage, il y a plein de choses qui sont posées, déjà tout le mystère qui va rôder autour de lui, c'est ce personnage féminin qui apparaît avec et qui dit Van Gogh, et que déjà là, en fait, on commence à parler de Van Gogh par les autres personnages et par ce qu'eux, ils vont apporter plutôt que par le personnage lui-même. Donc, on pose aussi cette façon de raconter qu'a Timothée de Fombelle.
Et alors, ce voyage, comment est né le projet et avec qui aussi? Parce que tu étais accompagné de plusieurs personnes.
Oui, c'est une longue histoire, mais en fait, on est six amis. On s'est rencontrés autour de l'œuvre de Timothée de Fombelle. Et en fait, on s'était déjà vus, on faisait des vacances ensemble, on partait chez l'un, chez l'autre en France. Et on avait déjà parlé de partir plus loin. Et puis on s'était dit, mais il faudrait en fait qu'on aille dans les îles éoliennes. Parce que par ailleurs, quand on avait commencé à se connaître, c'était entre le tome 1 et 2 de Van Gogh. Donc Van Gogh avait quand même une place assez importante pour nous. Et puis un jour, je ne sais plus trop comment ça s'est fait, et on s'est dit, on s'est rendu compte que à l'époque, on était tous étudiants, et on s'est rendu compte que s'il fallait qu'on parte, c'était maintenant, parce que la vie de nous rattrapant, c'est après très difficile de caser 8 jours complets à 6 personnes. Et en janvier, un soir de janvier, on a acheté tous nos billets d'un coup, et c'était assez dingue. Ouais.
Donc 8 jours, 6 personnes, c'est ça? Ok. Et est-ce que tu peux aussi parler un petit peu de ta destination, enfin de votre destination, les îles éoliennes, où est-ce que ça se trouve exactement, et aussi quel a été votre parcours entre les îles?
Je rattrape juste une erreur de ma part, j'ai même pas cité les prénoms de
Ah oui, 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 vas-y.
Donc
c'est
je pense
vrai.
Que je vais le faire au moins pour leur faire un
mais
coucou.
Oui.
Donc avec moi, il y avait Nathan, Iris, Amélie, Jolène et Lucille. Donc on est parti 8 jours dans les îles. En fait, ça se trouve au-dessus au nord de la Sicile. C'est juste au-dessus de la Sicile. Depuis Salina, l'île où on logeait, on peut apercevoir la Sicile quand on est un des points culminants. Et en fait, ce qu'il faut savoir quand on va dans les îles Ioniennes, c'est qu'il faut prendre le temps d'y aller. Parce qu'il y a, on faut compter bien 2 jours de voyage, puisqu'il faut faire de l'avion, RER et bateau, quoi. Enfin, c'est un long voyage, mais c'est ça qui rajoute au charme, c'est que c'est encore un endroit assez éloigné où on a l'impression qu'il faut le mériter.
Moi, j'allais te poser la question des moyens de transport, du coup. Déjà, sur les îles elles-mêmes, est-ce que c'est grand, ça vous permettait, la dimension vous permettait d'aller à pied ou, c'était...
Alors, il y a des îles qui sont plus grandes que d'autres.
Ouais.
Nous, là où on était, on pouvait facilement aller à des endroits à pied, mais il fallait se dire qu'on allait faire de la marche et une randonnée. Sinon, il y a des bus qui peuvent permettre d'aller à un endroit à l'autre de l'île. Et entre chaque île, il faut prendre le bateau, qui sont plus ou moins réguliers en fonction des îles. Après, je crois qu'on en parlera après, mais il y a la particularité d'Alicudi, mais c'est un secret qu'on garde pour plus tard.
D'accord, on le garde pour plus tard alors. Et donc, est-ce que des îles sont moins accessibles que d'autres ? Est-ce qu'il y en a où on peut pas du tout aller ? Ça, je sais pas.
Alors, il y a Alicudi, qui est difficile d'accès.
Okay.
Je ne sais plus si c'est 2 ou 4 bateaux dans la journée, mais il faut pas les louper, quoi.
D'accord, ouais.
Après, il y a des toutes petites îles où, en fait, c'est plus des îlots où il n'y a pas grand-chose dessus. Notamment Fidikudi, qui, je crois, remarque, plus petite. Non, elle n'est pas plus petite que... Alicudi, mais qui est aussi assez difficile d'accès. Et après, des petits îlots comme le Stromboliccio, si je ne me trompe pas, qui est juste à côté du Stromboli, où en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. En fait, il faut y aller que si on veut y aller personnellement avec un petit bateau. Mais...
Ah oui, d'accord. Ouais.
Sinon, toutes les îles sont accessibles.
Et est-ce que c'est très habité comme lieu et touristique aussi, enfin, c'est un peu deux questions en une, mais...
Alors, c'est peu habité et peu touristique.
C'est peu touristique.
Sauf
Stromboli. Ah bon, d'accord. Ah oui, Stromboli,
voilà.
Ouais.
Donc, Stromboli est très touristique. C'est là, quoi. Et Stromboli et Lipari, qui en fait est la seule île qu'on n'ait pas faite, c'est la plus grande. Donc, ça, c'est assez. Enfin, ça dépend des îles. Parce qu'en fait, je dis que c'est peu habité parce que nous, on était sur l'île donc Salina, qui est une des îles qui est moins touristique, en fait. Donc, on croisait surtout des Italiens et puis des endroits où on croisait personne. Alicudi, il y a très, très peu, je dirais 100 habitants à l'année à peine. Et après, il y a Panarea, c'est l'île de luxe, en fait. Je crois que c'est un peu appelé comme ça, parce que là, il y a plus de monde, mais parce que c'est là qu'il y a le luxe, les habitants les plus luxueux. Et donc, Lipari, il y a plus de monde, mais on n'y a pas été, en fait. Mais ça reste très, très peu touristique, notamment parce qu'en fait, c'est difficile d'accès, donc il faut...
Ouais.
À la fois mettre un peu de moyens financiers, mais c'est assez abordable puisqu'on a pu le faire en tant qu'étudiant et puis surtout se donner le temps d'y aller. Ça, généralement quand on fait des vacances, on cherche des lieux plus faciles d'accès, donc ça reste
accessible. Ouais. Et donc concernant Stromboli, dans Van Gogh, donc il y a un ballon dirigeable, celui du commandant Hugo Eckener, un ingénieur pacifiste, antifasciste, et il accepte Van Gogh comme passager clandestin pour l'aider à s'enfuir. Dans un passage, le Zeppelin survole de très très près le volcan de l'île de Stromboli, et donc il est décrit ainsi. On l'appelait le phare de la Méditerranée. Depuis des millénaires, il s'allumait 1 ou 2 fois par heure. Haut de 1000 mètres, le rougeoiement du volcan Stromboli se voyait de très loin dans la nuit. 4 ans plus tôt, une gigantesque éruption s'était révélée meurtrière, mais le Stromboli avait maintenant repris son rythme innocent. C'était une île volcan, au milieu de la mer, avec quelques courageuses maisons de pêcheurs sur ses pentes. Alors, est-ce que vous avez retrouvé cette image du Stromboli en y allant par vous-même ? Ou est-ce que tu disais que c'était la plus touristique, donc peut-être que ça...
Oui. Alors, sur l'île en elle-même, effectivement, comme c'est la plus touristique, on n'a pas les quelques cabanes de pêcheurs courageuses, on a plutôt les quelques boutiques pas courageuses de touristiques. Par contre, on a cherché à retrouver cette image de volcan qui se voit dans la nuit. En fait, on s'est payé le luxe de prendre pendant une journée une espèce de petit bateau de croisière où je me suis rendu compte que j'avais le mal de mer affreux. Et c'était, enfin, de croisière, en fait, c'était ce qui était très drôle, c'est que c'était vraiment un bateau tenu par un père et un fils italien. Donc, en fait, on était peut-être une dizaine sur le bateau et puis ils parlaient que italien. Donc, quand ils nous disaient des trucs, on comprenait rien, même italien ou sicilien. Et on faisait le tour de plusieurs îles. Donc, on avait fait Panarea, justement. J'en oublie une, et Stromboli. Et en fait, à la fin, on finissait autour de Stromboli après le coucher de soleil la nuit. Et puis, on était censé voir la lave qui coulait sur le côté du volcan qu'on n'a pas vu. Donc, c'était un peu décevant. Mais sinon, en fait, depuis la maison qu'on louait sur Salina, on pouvait voir des fois le volcan et puis les volutes de fumée. C'est assez impressionnant, mais en fait, on aurait eu envie de grimper, mais il faut se donner du temps pour le faire. Mais c'est assez impressionnant. Ouais, on a fait Vulcano, par contre, comme île où il y a un volcan aussi.
D'accord.
Mais lui, il est pas en activité.
Tu disais que c'était compliqué, la communication dans le bateau. Est-ce que quelqu'un parlait italien dans le groupe
ou... Oui.
Ouais. Ah, d'accord.
Iris, dans le groupe, parlait italien. Donc, heureusement, ça nous a quand même bien facilité la vie. Les endroits touristiques, ils parlaient des fois anglais. Mais oui, sinon, c'était un peu compliqué. Mais après, on fait des gestes, on se fait comprendre.
Oui. Et donc, quels sont les lieux clés de votre pèlerinage littéraire? Je vais peut-être l'appeler comme ça, surtout vu la vocation de Van Gogh.
Oui, on peut dire ça, pèlerinage. Ouais. Donc, dans les lieux clés, déjà, il y avait l'île où on avait pris notre maison. C'était fait exprès parce que c'est Salina, donc c'est là où vit Van Gogh dans les îles Éoliennes. Sur l'île, il y a notamment Polara, qui est le village où il a grandi. Donc ça, c'était le lieu clé. On a été dès le deuxième jour, on y a été, puis on y est retourné juste avant de partir parce que c'est vraiment quelque chose, déjà parce que c'est beau, c'est vraiment un village au milieu de montagnes, et puis où il faut descendre, et ensuite il y a la mer. Et puis ensuite, parce que quand on y était, il se passait quelque chose, une émotion très forte. Quoi. Il y a ça, il y a Ali Koudi, l'île avec le monastère invisible, qui apparaît plusieurs fois dans Van Gogh, qui est un lieu très important. Le Stromboli un peu parce qu'en fait il le survole et il y a notamment le moment où il tombe, enfin il saute justement du, je veux pas trop en dire pour ce qu'on peut du dirigeable et sur les îles.
Et du coup on va peut-être parler d'un peu d'Ali Koudi maintenant. Donc elle est introduite comme ça dans le livre. Derrière une première île longue et bosselée, couchée comme une femme enceinte à fleur d'eau, on apercevait une autre île. Cette île s'appelait Ali Koudi. Ses derniers habitants l'avaient quittée, on la disait abandonnée depuis 20 ans au moins. Alors, est-ce que Ali Koudi est l'île déserte décrite par Timothée de Fombelle ?
Alors, déjà, dans la citation que tu viens de lire, là, il y a cette femme enceinte couchée à fleur de l'eau.
Qui est l'île voisine, alors.
Donc ça, c'est Philippe Koudi, en fait. Et c'est vrai que c'est flagrant quand on a été à Polara à pied, sur Salina, on voit Philippe Koudi, et en fait, c'est vrai, quoi. C'est une femme enceinte couchée sur l'eau, c'est vraiment impressionnant. Et ça, en plus, on l'a cherché après dans les guides, on s'est dit, mais est-ce que quelqu'un d'autre que Timothée de Fombelle l'a dit ? Et en fait, non, on l'a vu que, donc on disait qu'il devrait faire un guide touristique. et donc ensuite, oui, Ali Koudi. Alors Ali Koudi est effectivement une île assez déserte. Plus à l'époque du livre, puisque ça se passe dans l'entre-deux-guerres. Mais là, aujourd'hui, je crois que l'eau est courante et installée depuis pas... très longtemps non plus. Il y a moins d'une centaine d'habitants à l'année. Faut vraiment le vouloir pour y aller. La poste ne passe qu'une fois par semaine. Et en fait, quand on arrive sur l'île, il y a peut-être deux ou trois chemins uniques qui permettent de monter jusqu'en haut ou d'aller à d'autres endroits. Et c'est que des escaliers. Il n'y a pas de route. Si on veut transporter des choses, il faut avoir un âne ou un mulet. C'est vraiment... Et en fait, ce qui est impressionnant sur cette... Donc, on y a été... On y a été une journée et c'est épuisant. On ne se rendait pas compte, mais en fait, comme on voulait faire l'aller-retour, monter, descendre en peu de temps, puisque je crois qu'on arrivait à 10h, il fallait qu'on reprenne le bateau à 15h. En fait, c'est très fatigant. Et c'est que des escaliers sous la chaleur. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un silence, mais je crois que je n'avais jamais entendu un silence aussi intense que là, puisque il n'y a plus rien, quoi. Il y a pas de voiture, il y a pas de monde, il y a pas de, c'est le silence, et ça c'est une expérience incroyable aussi.
Et le monastère invisible, alors, ouais. Parce que c'est un lieu quand même très, très important dans le livre, où on a ces moines qui, ouais. qui sont là pour différentes raisons, mais qu'on ne va pas dévoiler. Enfin, le monastère est absolument inconnu, hors des cartes. Est-ce que le monastère invisible a une inspiration, enfin, est-ce qu'il existe, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un bâtiment qui aurait inspiré Timothée de Fombelle
de... Alors, le monastère invisible est vraiment invisible.
Ah.
Il n'existe pas.
Il n'existe pas.
Bon. Par contre, donc avant notre voyage, on avait vu Timothée de Fombelle et il nous avait donné plein d'indications, des petits conseils touristiques déjà, et puis plein d'indications sur les lieux de Van Gogh, parce que lui, il a écrit son livre là-bas, en fait. Il y a passé, si ce n'est pas tout un été, en tout cas un long moment où il s'y est inspiré, où il y a écrit. Et il nous avait dit qu'il avait en fait posé des piquets en haut de Ali Koudi qui délimitaient là où était le monastère invisible.
Ah, alors, d'accord, ils y étaient encore. Hein.
Et donc, non, on n'a pas trouvé les piquets. Mais on pense qu'on a trouvé le bon endroit. Et c'est tout en haut de Ali Koudi. En fait, dans notre ascension, il y a eu, du coup, comme c'était assez difficile, il y a eu une personne du groupe qui était un peu trop fatiguée pour continuer. Et donc, il y en a deux qui sont restés. On a continué le périple à quatre. Et on avait vraiment l'impression de partir à l'aventure. C'était très drôle. Et on est arrivé en haut et... C'est là aussi, il y a... En fait, ce qui était génial dans notre voyage, c'est qu'il y avait toujours à la fois le fait de faire le voyage tous les six. Il y avait le fait que les îles Éoliennes, c'est un endroit incroyablement beau que je conseille à tout le monde. Et puis, le fait qu'on faisait ce périple littéraire. Et donc, à chaque fois, en plus du paysage, il y avait toujours une espèce d'émotion intense, quoi, de se plonger plus que dans un lieu, dans une histoire, dans des choses qui se croisaient à la fois avec nous, à la fois avec Van Gogh. Donc non, le lieu n'existe pas vraiment, mais on peut le retrouver si on se l'imagine.
Et ça va être un petit peu le moment guide touristique de l'émission. Sur l'ensemble des îles éoliennes, est-ce que tu aurais un conseil à d'éventuels auditeurs qui aimeraient faire le voyage et peut-être un lieu qui t'a particulièrement marqué à conseiller ?
Du coup, Ali Koudi, hésiter, c'est sûr. Ce qui est marrant, en fait, c'est que dans les guides touristiques, ils ne vont pas le conseiller. Ils vont pas le conseiller, même ils disent c'est un endroit qu'on peut passer, c'est pas important, alors qu'en fait c'est vraiment une expérience de voyage à vivre absolument, et notamment pour ce que je disais, pour ce silence, pour le paysage, on a vraiment l'impression d'être arrivé au bout du monde, et c'est quand même ça qui est impressionnant. C'est cette impression d'être arrivé au bout du monde, le silence, le paysage, l'eau à perte de vue. C'est à la fois grisant et un peu effrayant, mais c'est vraiment très beau. Donc ça, je conseille. Et puis après, en fait, de faire les îles les moins touristiques. De ne pas s'arrêter à Stromboli, et si on peut, d'aller sur les autres, parce que c'est là que se passe...
Regardez Stromboli de loin.
Regardez Stromboli de loin, même si effectivement c'est bien d'y aller...
Alors, on va enchaîner sur ton choix musical. Donc, c'est les 4000 îles de Fauve. Donc, on va en parler après. Enfin, tu vas peut-être dire deux mots sur le pourquoi de ce choix. On l'écoute maintenant.
Thank you. parfois ces endroits qui faisaient taire le vacarme de mes idées noires. Les sommets qui jouent les mâchoires et ta cage thoracique se resserre quand tu les regardes de haut en bas. Emmène-moi revoir juste pour un soir le vert fluo des rizières qui triomphèrent de ma colère et consolèrent mon désespoir. Emmène-moi revoir une dernière fois ces choses qui faisaient sauter mes pensées périmées. La poussière orange des sentiers, le béton brûlant de Miami et puis aussi les gens.
Alors, on écoute Fauve, les 4000 îles que tu as choisies comme pause musicale. Alors, emmène-moi revivre juste pour un mois dans le labyrinthe des 4000 îles près de tous mes amis au grand cœur. Est-ce que tu peux... Voilà, pourquoi ce titre ?
On était partis dans les îles avec une petite playlist où on avait tous mis des titres. Et celui-là était un des titres phares parce qu'il dit... Il dit beaucoup de choses, je trouve, du voyage et puis de l'amitié. Enfin, j'aime beaucoup les textes qui s'adressent, qui ont une adresse comme là, emmène-moi. Et je trouve que le texte en lui-même dit beaucoup de choses de ces relations-là. Et puis, les îles, il y a une ambiance à la fois mélancolique et puis magnifique. Enfin, c'est vraiment ce qu'on ressent là-bas, je trouve. Et puis, ce qu'on ressent en revenant du voyage et qu'on a envie d'y retourner.
Ah oui, c'est vrai. Du coup, pour revenir à ton projet, je voulais te demander comment est-ce qu'on passe de la lecture à l'envie de vivre en fait ce qu'on lit, ou du moins de s'en rapprocher en allant dans la réalité sur les lieux de la fiction. Et puis dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça apporte le voyage à l'expérience de la lecture ?
On fait le pas quand on a trouvé le bon livre et que par ailleurs c'est un lieu plutôt chouette à visiter en vacances. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est plusieurs choses. C'est à la fois cette envie de partir ensemble, voyager, et à la fois ce périple littéraire où on se rend compte que la littérature, on a beau dire que c'est une activité solitaire, c'est quelque chose qu'on vit seul ou qui est toujours quelque chose de l'esprit. En fait, c'est quelque chose qui est bien plus vivant que ça. Déjà parce qu'on justement la partage avec des gens, on lit ensemble, on en discute quand on a la chance d'avoir trouvé les personnes pour faire ça. Et ensuite, parce que en fait, quand on lit un livre, on entretient un dialogue avec l'auteur qui peut aller dans un sens ou qui va dans deux sens si on rencontre l'auteur ensuite. Et ce dialogue, il se continue si on fait ça, par exemple, si on va sur les lieux, si on cherche à redécouvrir comment c'était à la base. Et alors après, comment on se dessine, je ne sais pas trop. Je pense que c'était une impulsion conjuguée à plein d'envie. Et après, ce que ça apporte, c'est que... ça apporte une autre lecture parce que déjà on l'a tous relu en fait avant d'y retourner avec Jolène, une des six du groupe, on a fini le tome 2 sur place et après, donc ça apporte encore d'autres choses parce que en fait on a tous imaginé des choses et puis on se retrouve confronté au truc et en fait c'est pas comme on avait imaginé parce qu'on n'a pas forcément eu la curiosité de taper dans Google Selina, îles éoliennes, et ça apporte à la fois des images concrètes et puis à la fois ça enrichit l'expérience de lecture parce que maintenant on a les odeurs, on sait à quoi ça ressemble, on a nous-mêmes des souvenirs là-dedans.
D'ailleurs, c'était en quelle année le voyage ? J'ai pas demandé.
C'était pas l'été dernier, celui d'avant, donc 2016.
D'accord, ok. Et je me disais qu'en fait il y a toujours un risque dans ce genre de projet qui rend réel ce qu'on a lu et qui a suscité des images en nous, c'est celui d'être déçu peut-être par la réalité. Alors, est-ce que vous avez retrouvé le plaisir tous ensemble que vous aviez eu à la lecture et peut-être l'âme de Van Gogh dans les îles éoliennes d'aujourd'hui, est-ce que vous l'avez retrouvé ?
Oui, on l'a retrouvé, ça c'est sûr. On n'a pas été déçus parce qu'en fait, on, je crois qu'on n'avait pas imaginé à quel point c'était un endroit incroyable. Donc je pense qu'on peut être déçus, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et après, je pense qu'il faut partir avec le cœur du littéraire, de se dire que ce qu'on imagine, c'est forcément différent et qu'on imagine tous des choses différentes et que ce qui est génial, c'est qu'on va se retrouver justement confronté à d'autres choses et que c'est en fait la base de toute lecture, c'est que on a notre propre regard et que ce qui est chouette, c'est que justement, on l'enrichit à la fois de la réalité, mais si on lit des livres, du regard des autres.
Et donc Van Gogh, c'est vraiment un roman d'aventure et c'est un roman de voyage parce qu'en fait, les îles éoliennes, c'est un peu le lieu source, l'origine. Mais il faut dire quand même que Van Gogh et les autres personnages en traversent bien d'autres. Il y a l'Allemagne, il y a Paris, il y a l'Écosse et puis New York aussi. Et on a aussi des évocations de la Russie avec Moscou et puis le Zeppelin qui voyage, qui emmène Hugo Eckener et enfin jusqu'en Amérique. Et donc, de ces autres lieux, est-ce qu'il y en a un autre qui, vers lequel tu pourrais faire ce nouveau ce pèlerinage littéraire et qui t'évoquerait Van Gogh aussi précisément que les îles éoliennes ?
Oui, c'est déjà prévu.
Ah,
et... Non, je sais pas quand on aura l'occasion de le faire, mais on s'est dit la prochaine fois qu'on part, je pense que ça sera... On a envie de partir en Écosse. Alors, ça sera jamais aussi... J'ai envie de dire aussi fort et précis que les îles éoliennes, parce que déjà il se passe moins de choses là-bas, mais ça va être une autre ambiance encore. C'est de là que dont vient Ethel, un des autres personnages importants du roman. Donc on a bien envie de partir là-bas, et puis après à Paris on peut faire ce petit pèlerinage aussi. Il suffit d'aller à Notre-Dame et on va plus, quand on a lu Van Gogh et qu'on a adoré Van Gogh, on va plus à Notre-Dame sans penser à Van Gogh accroché sur la rosace. Ah,
on ne pense plus à Victor Hugo alors ?
Non, je ne pense pas à Victor Hugo, je pense à Van Gogh.
Ah, d'accord. Et dans Van Gogh, il y a d'autres personnages secondaires qui sont liés au voyage d'une manière ou d'une autre. Il y a le docteur Basilio, habitant de l'île de Van Gogh, qui est un voyageur un peu mythomane en fait, qui n'a pas fait les voyages qu'il raconte. Il y a cette phrase, ce passage, le docteur Basilio semblait gêné. En vérité, il n'avait jamais été plus loin que Naples. Sa connaissance de la langue française était assez floue. Même s'il se promenait toujours avec un vieux numéro du journal L'Aurore et qu'il disait « Ah, Paris, Paris », en regardant les photos de mode. Alors, voilà, on a lui, on a Pipo, qu'on a entendu dans l'extrait qu'on a lu, qui est un autre habitant de l'île de Van Gogh et qui, lui, rêve de partir à Zanzibar et qui se retrouve en fait à échouer sur une île à quelques kilomètres plus loin, dans le monastère invisible, où il décide de rester. Donc, le vrai voyage est un peu moins loin que prévu. Et donc, que te racontent ces personnages secondaires dans ce thème du voyage ? Est-ce que tu as ton préféré ? Enfin, ceux-là ou d'autres, hein, j'ai cité ceux-là, mais...
Oui, y a beaucoup de personnages secondaires, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il se passe plein de choses, on peut se reconnaître dans plein de personnages. C'est vrai que Basilio a une petite affection, mais plus un attachement. Pipo aussi, mais en fait, ils ont tous quelque chose de particulier. Moi, dans les personnages qui m'inspirent le plus, c'est plus les personnages féminins, en fait. Donc, Ethel, qui est un personnage romanesque assez magnifique, et la taupe à Paris, qui est un personnage que rencontre Van Gogh aussi. Elle a fait plus un voyage d'identité, puisqu'elle ment un peu sur qui elle est, et on le saura aussi qu'à la fin, mais c'est qui elle se déplace sur les toits de Paris avec Van Gogh. Je pense, ouais, c'est de là, c'est elle et la taupe.
Et est-ce que, là du coup je vais sortir un peu de Van Gogh, mais est-ce que tu as d'autres références littéraires qui inspirent le voyageur que tu es devenu ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle voyage. En fait, je me suis rendu compte, du coup, en regardant mes livres chouchous, plusieurs de mes livres préférés étaient plus sur une thématique, plus sur l'exil ou sur un voyage, si ce n'est touristique, en tout cas.
Un voyage contraint, alors.
Mais souvent contraint, oui. Donc, je pense à Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, où c'est un voyage, mais alors là, de toute une vie, puisqu'ils s'en vont et. Ils traversent à la fois des contrées et puis à la fois des... Eux, leur vie, c'est assez incroyable. Le cœur cousu de Carole Martinez, où là, c'est un retour aux origines, où une femme s'en va avec tous ses enfants à travers l'Andalousie. Il y a La mécanique du cœur de Mathias Malger, évidemment, où il traverse l'Europe pour retrouver Miss Acacia. Et après, il y a un livre qui est cher à mon cœur depuis que je l'ai lu l'an dernier, qui est Océan-mer de Alessandro Baricco, qui est un livre incroyable et lui qui parle plus de voyage dans le sens où c'est des personnages qui se croisent et qui se retrouvent tous à la pension Almayer, je ne sais jamais si c'est Almayer ou Almayer, au bord d'une falaise et où ils ont tous une raison d'être là et leur chemin se croise et on va les découvrir au fur et à mesure. En plus, ils croisent tous le destin tragique d'un naufrage. Littérairement, c'est un livre incroyable. Et puis, après, il y a cette ambiance de la mer. Et on l'a compris depuis le début que l'océan, comme la mer, sont pour moi un paysage qui m'obsède. Donc ça aussi, ça fait partie de ça. Ça en tout cas, ça participe à construire un imaginaire.
Ouais, on a parlé de Barico. En plus, il y a quelques émissions avec Célia. On avait lu un extrait de Soi. Donc voilà, un autre livre de Barico, vraiment sur le voyage.
Ouais, bah c'est un écrivain italien incontournable.
Ouais, absolument. Ouais. Et donc, je te propose de lire un dernier extrait de Van Gogh pour vraiment rester sur le roman de Timothée de Fombelle. Donc, c'est un extrait du chapitre 14. Le commissaire Boulard, donc, qui cherche Van Gogh, va voir Ethel, une jeune femme qui le recherche également, mais pour d'autres raisons, et qui semble avoir un lien assez profond avec lui. Donc, Ethel habite en Écosse, comme tu l'as dit tout à l'heure, près du Loch Ness. Le commissaire était tout à fait perdu, collé contre la jeune fille, à 120 à l'heure sur la mauvaise route. « Elle atteint 260 sur le circuit de Brooklands !» cria Ethel.
« Je vous crois sur parole. »«
Comment ?»«
Je dis que vous n'avez pas besoin de me montrer. »«
Comment ?»«
Moins vite !»
hurla le commissaire. Et Ethel fit un sourire éclatant comme il n'en avait jamais vu sur son visage. Dans un tournant, elle voulut s'arrêter pour lui montrer la vue. Les pneumatiques retombèrent sur le sol et crissèrent. Et Boulard fit quelques pas derrière elle, entre les herbes, les jambes encore tremblantes. On voyait le Loch Ness au loin.
« C'est beau. »
admit Boulard. Elle s'était assise sur un rocher et se taisait. Il restait debout. Le paysage lui rappelait son Aubrac natal, les hauts plateaux où il avait grandi entre l'Aveyron, la Lozère et le Cantal, avec 5 mois de neige par an sous les pieds. « Combien de royaumes nous ignorent ?» dit Ethel à mi-voix. Boulard fronça les sourcils. Elle avait les yeux fermés. Le ciel noircissait vers l'ouest. Ethel expliqua. C'est une phrase qui était écrite sur un morceau de tissu qu'il ne quittait pas. Combien de royaumes nous ignorent ? Reprenant ses esprits, elle ajouta sur un autre ton. Je vous dis ça parce que ça ne vous servira à rien.
Merci,
dit ironiquement Boulard. C'était le genre d'énigme de jeu de piste qui ne servait à rien d'autre qu'à faire joli dans les livres policiers.
C'est une phrase des Pensées de Blaise Pascal,
dit Boulard, qui ne lisait justement pas que des romans policiers. Alors, quoi de mieux que de se quitter sur cet extrait qui donne bien à voir la simplicité et la poésie aussi, et la malice de l'écriture de Timothée de Fombelle. Dernière question, cependant, Tom. Alors, verdict, est-ce qu'il faudra repartir ?
Oui, évidemment.
Oui, en Écosse, peut-être.
En Écosse et puis dans les îles éoliennes, entre autres, c'est sûr. Ouais.
Bah, merci, Tom, d'être venu en parler aujourd'hui. Et on se quitte sur un morceau qui s'appelle « Pizzica di Tortiarolo », un morceau des sœurs Barilla, un duo de françaises qui s'inspire du folklore du Mezzogiorno, donc ça me semblait être de circonstance. Alors je rappelle que Van Gogh, le tome 1 et le tome 2, donc est édité chez Gallimard Jeunesse et réédité aussi par Gallimard dans la collection Folio Adulte cette fois. Et d'ailleurs, ils ont bien fait car Van Gogh est vraiment un roman qui a la force de toucher et d'intéresser des lecteurs de tout âge. Et pour rappel également, Tom Lévesque a un blog qu'il faut absolument visiter si vous vous intéressez à la littérature jeunesse et ado. Ça s'appelle La Voix du Livre, donc c'est lavoixdulivre.fr. C'est une mine d'informations sur l'actualité littéraire. Alors merci encore à Tom d'être venu parler de Van Gogh et des îles éoliennes dans ce 9e volet de l'émission. Merci aussi à Salomé qui se trouvait derrière la régie aujourd'hui comme d'habitude. Et on se retrouve dans un mois pour une destination encore inconnue. Ciao !